Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 4 novembre dernier, dans un long entretien filmé avec Edwy Plenel et Marine Turchi publié sur le site de Mediapart, l'actrice Adèle Haenel révélait avoir été victime d'attouchements et de harcèlement sexuel par le réalisateur Christophe Ruggia lorsqu'elle avait entre 12 et 15 ans, durant et après le tournage de son premier film « Les Diables ». Elle déclarait aussi ne pas avoir voulu porter plainte en raison des lenteurs de la justice et de la difficulté des femmes à se faire entendre et préférer le tribunal médiatique à l'institution judiciaire. Quelques jours plus tard, le 8 novembre, à une semaine de la sortie du film de Roman Polanski, J'accuse, le Parisien publiait le témoignage de Valentine Monnier, une photographe et ex-mannequin française de 62 ans qui, se disant inspirée par Adèle Haenel, affirmait avoir été agressée sexuellement par Roman Polanski lors d'un voyage au ski en Suisse en 1975. Déjà condamné en 77 pour relation sexuelle illégale avec Samantha Gamer, qui avait 13 ans à l'époque des faits, Polanski démentait, mais le scandale explosait néanmoins. Comme le dit Le Monde de ce vendredi, le cinéma français est depuis en état de choc. Jean Dujardin, qui devait faire le 20h de TF1, a annulé sa venue. Emmanuel Seigné, qui joue dans le film, ne s'est pas rendu à l'enregistrement de l'émission Boomerang sur France Inter, dont elle était l'invitée. Et l'émission d'Antoine Decaune, Pop Pop Pop, sur France Inter, qui recevait Louis Garrel, le troisième acteur assurant la promotion du film, n'a pas été diffusée sur l'antenne de France Inter. Tandis que le film sort en ce moment et fait un carton, plusieurs personnalités annoncent aussi qu'elles n'iront pas le voir et d'autres, prenant la défense de Polanski, multiplient les déclarations délirantes dans les médias. La justice médiatique se substitue-t-elle à la procédure judiciaire? Avec quels avantages et avec quels risques? Pour en parler aujourd'hui avec nous, Marilyn Baldeck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de l'AVFT. L'AVFT, c'est...
L'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail.
Voilà, vous êtes spécialiste des violences sexistes et sexuelles. Vous intervenez auprès des victimes, vous formez les acteurs professionnels concernés et vous tentez d'agir sur les pouvoirs publics. C'est ça ?
Notamment.
Je vais vous expliquer tout à l'heure. Olivia Dufour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplômée d'un DEA de philosophie du droit à Paris 2. Vous avez été juriste dans un cabinet d'avocats avant de devenir journaliste spécialisée en droit, justice et finances. Et vous êtes l'auteur de deux livres, Justice, une faillite française et Justice et médias cette année, c'est ça ?
La tentation du populisme.
La tentation du populisme, c'est le sous-titre. Jordan Mincer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, commencez à être familier de cette émission. Vous êtes journaliste américain, correspondant en France de Hollywood Reporter. Et Samuel Blumenfeld, qu'on ne présente plus. Vous êtes au monde spécialiste de cinéma. Et vous connaissez bien le milieu du cinéma international, pas seulement français d'ailleurs. Alors, cette histoire qui agite maintenant les médias depuis l'interview de Adèle Haenel et qui ne cesse de rebondir, on peut d'abord peut-être commencer par la résumer, ce que je vais faire. Adèle Haenel a dit que Christophe Ruggia avait exercé sur elle une emprise de tous les instants. Il se livrait à un harcèlement sexuel permanent, à des attouchements, des baisers forcés dans le cou, etc. On peut remarquer que ces révélations ont éclaté au grand jour 17 ans après les faits et Adèle Haenel a expliqué avoir été inspirée par le mouvement MeToo. Christophe Ruggia lui-même a démenti les faits. Il dit avoir commis l'erreur de jouer les Pygmalions avec les malentendus et les entraves qu'une telle posture suscite, mais il a réfuté catégoriquement avoir jamais eu à l'égard de Adèle Haenel les gestes physiques et le comportement de harcèlement sexuel dont elle l'accuse. Je cite son communiqué. Et néanmoins, Christophe Ruggia va être prochainement radié de la Société des réalisateurs de films, la SFR, qui affirme dans un communiqué son soutien total, son admiration et sa reconnaissance à l'actrice Adèle Haenel. Le 6, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour des chefs d'agression sexuelle sur mineurs, donc il y a une enquête qui commence à être en cours. Et c'est tout de suite après qu'a commencé l'affaire Polanski, qui est en quelque sorte la suite, sinon la conséquence, de l'interview de Adèle Haenel. Qu'est-ce qu'on peut en dire, comme ça, de cet emballement médiatique ?
Écoutez, vous me regardez.
Olivia Dufour.
Je vais peut-être livrer une première proposition de réflexion. Je pense ce qui m'a marqué, moi, ce sont les propos d'Adèle Haenel. Encore une fois, mon intention ne sera ni de critiquer ni d'entrer dans le dossier que je ne connais pas la concernant. Et en plus, je parle avec d'autant plus de prudence que ce sont des sujets extrêmement douloureux. Donc, ça n'est pas. Je ne commente pas ce qui lui arrive ni ses choix. J'observe simplement que cette phrase qui est très intéressante, qui consiste à dire j'aurais pu porter plainte, mais la justice n'est pas efficace, et donc je préfère m'adresser aux médias. C'est effectivement une tendance qu'on observe de plus en plus, et je pense pas du tout seulement d'ailleurs concernant les femmes agressées sexuellement ou harcelées ou victimes de violences. Il me semble que c'est une tentation de plus en plus fréquente qui sans doute reflète le caractère un peu omnipotent du détenteur de téléphone portable. Je crois que nous sommes tous habitués désormais à obtenir satisfaction assez rapidement de tous nos désirs, parce que le marché nous a appris que tout pouvait être à portée de clic. Et il me semble que s'adresser aux médias de cette façon-là, c'est la traduction de ce nouveau réflexe de consommateur, en quelque sorte. Et puis, c'est peut-être autre chose aussi, c'est peut-être la tentation d'aller vite vers une réponse immédiate et satisfaisante. Elle est d'autant plus satisfaisante que, un, on obtient en tant que victime ce dont on a le plus besoin, et je crois que ma voisine ne me démentira pas, c'est une écoute immédiate et une adhésion immédiate à ce que l'on dit. Et en plus, on obtient également, ça n'est pas toujours l'effet recherché, mais en tout cas, c'est l'effet obtenu, la sanction aussi immédiate de celui qui vous a fait souffrir. Donc on comprend assez bien la tentation. Après, mais je pense qu'on y reviendra, cette tentation n'est pas sans risque.
Marine Baldeck.
Alors moi j'aimerais bien repartir en fait de la manière dont vous avez lancé en fait notre débat, puisque à propos d'Aden LL, vous disiez elle préférait le tribunal médiatique au tribunal judiciaire. Moi j'ai donc regardé son interview et à aucun moment ce sont les termes qu'elle utilise en fait.
Elle n'utilise pas le terme tribunal médiatique.
Non. Alors je pense qu'il ne faut pas confondre le tribunal et la tribune que peut offrir l'espace médiatique à notamment aux victimes de violences sexuelles, mais en tout cas, ça n'est pas l'intention d'Adèle Haenel de faire de l'espace médiatique un tribunal. Et en tout cas, de mon expérience, ça n'est pas l'intention des victimes qui s'expriment publiquement en nommant leurs agresseurs. Donc moi, je passe depuis une quinzaine d'années énormément de temps en fait à recueillir leurs témoignages. Elles, le premier moteur en fait de leur prise de parole ou de leur action, d'ailleurs qu'elle soit judiciaire ou qu'elle prenne la forme d'une prise de parole publique, c'est que les choses changent. Et que ça ne se reproduise pas pour les autres. En ça, en fait, le témoignage d'Adèle Haenel n'était pas très original. C'est exactement ce qu'elle disait. C'est son moteur. Elle dit d'ailleurs, moi je ne suis pas là dans une optique de vengeance, je ne suis pas là pour clouer cet homme au pilori. Elle a un discours qui est assez mesuré, en fait. Alors elle énonce les faits dont elle affirme avoir été victime, mais après, sur les faits qu'elle souhaite produire, sur cet homme, elle est claire, elle dit en fait, il n'est plus mon sujet en fait. Moi je suis là pour avoir un discours construit, un discours politique, pour faire en sorte que d'autres jeunes femmes en fait ne passent plus par là en fait. Et elle appelait principalement en fait à la vigilance des témoins, à ce qu'il y ait une mobilisation plus large dans le milieu du cinéma et au-delà pour empêcher que cela n'arrive. En fait, moi en tout cas je l'ai analysé comme un discours à visée préventive et à visée mobilisation. Et pas du tout pour juger de manière non contradictoire un homme. C'est la question de la réception, en fait, de ce discours.
Mais c'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est que c'est vrai, mais en même temps, elle parle d'un lieu précis, elle est actrice, elle parle du milieu du cinéma, et ça a des effets. Ça a des effets, pas seulement sur l'homme dont elle dit qu'il a été son agresseur, mais aussi sur Polanski, puisqu'elle est intervenue elle-même dans l'affaire Polanski à un moment donné. Le 18 octobre, c'est sur ses conseils que les organisateurs du festival du film de La Roche-sur-Yon ont fait encadrer, comme on dit, la projection de J'accuse, de discussions sur le harcèlement. Et la personne choisie comme encadreuse était Iris Bray, qui est spécialiste des questions de genre au cinéma, et qui a déclaré « Il est difficile, selon moi, de séparer l'homme de l'œuvre quand l'homme utilise son œuvre pour asseoir son pouvoir sur certaines femmes », qui a déclaré aussi ne pas vouloir voir le film qu'elle était là pour encadrer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est pas simplement le fait que ce soit Adèle Haenel qui parle, fait que quand même sa place particulière a des conséquences immédiate, au moins sur le milieu qui est le sien, non,
Jordan Mine ? Oui. Je pense qu'en fait, on n'a pas l'habitude, en fait, que la voix des victimes, elle porte comme celle d'Adèle Haenel a porté, en fait.
On va revenir là-dessus. Jordan Mine,
oui, je vais juste reprendre ce qui vous disiez sur l'histoire de lancer ce genre d'informations d'une manière très rapide, immédiate, en ligne. En fait, en réalité, moi, je trouve que l'enquête qui a fait Mediapart avec Adèle Haenel, ça, comme l'enquête sur Harvey Weinstein, c'est des enquêtes journalistiques qui ont duré plusieurs mois. Et c'est pas une question de mettre sur Twitter une accusation. C'est des accusations qui sont vérifiées dans la mesure du possible avec d'autres témoins. Moi, j'ai lu l'article de Mediapart. Il y avait au moins une vingtaine de personnes interviewées. L'enquête sur Harvey Weinstein, qui a un peu lancé cette tendance, mm-hmm. si on veut, ça a duré 6 mois. C'était des journalistes qui ont travaillé 6 mois pour justement arriver à une vérité. Donc je pense qu'il y a peut-être une différence aussi entre ce genre d'affaires où il y a des enquêtes journalistiques, des journalistes qui font leur travail d'arriver à une vérité, contre des gens peut-être qui veulent juste tout simplement mettre des informations en ligne sans vérification ou sans une vraie déontologie journalistique.
Oui, si je peux dire un mot.
Allez-y.
6 mois d'enquête, encore une fois, moi je ne remets pas en cause le travail journalistique. Je souligne que celle qui a lancé Balance ton porc, elle a juste fait un tweet avec un nom et qu'elle a d'ailleurs été condamnée pour diffamation. Mais effectivement, il faut distinguer ce réflexe-là qui consiste en un tweet donner un nom comme ça, et puis effectivement un travail d'enquête journalistique plus long comme a été celui du Parisien ou de Mediapart. Néanmoins, même 6 mois d'enquête, ça reste quand même beaucoup plus rapide que 3 ans devant un tribunal. Et la sanction, elle est immédiate. Je pense à ce réalisateur dont j'oublie toujours le nom et puis je n'ai pas tellement envie de le prononcer parce que pour moi, il n'a pas été condamné. Donc son nom en pâture, ça me gêne un petit peu. Mais le réalisateur qui a été chassé immédiatement, j'ai été sidérée par la violence du communiqué de presse de la Société des réalisateurs qui, dans les quelques heures qui ont suivi, n'a pas dit « je vais convoquer l'intéressé », ce que j'aurais compris. On va convoquer l'intéressé, on va lancer des actions générales parce que on est toujours sur deux plans. On est sur le plan à la fois de changer les choses, ce que j'entends très bien, et en même temps de traiter un dossier particulier dès lors qu'on donne un nom, parce qu'on pourrait aussi changer les choses sans donner de nom. Et moi, MeToo me va bien quand on donne pas de nom. Quand on donne un nom, je suis un peu plus embarrassée. Mais donc, on a quand même une rapidité bien plus grande que d'aller en justice, indéniablement.
Il faut dire aussi, avant de donner la parole...
Et la sanction immédiate, oui, pardon, je finis, j'avais perdu le fil, c'est que immédiatement que la Société des réalisateurs dise « on le convoque, on demande des explications », j'aurais compris cette réponse médiatique, je l'aurais comprise. Mais dire « on engage une procédure d'éviction sur la foi d'un témoignage aussi digne de foi soit-il, aussi crédible, aussi émouvant soit-il », franchement, dans un état de droit, je crois qu'il faut vraiment s'inquiéter.
Oui, alors c'est l'une des choses, vous parlez de d'investigation, mais c'est une des choses qui est le moins investiguée pour l'instant dans cette histoire, c'est ce qui se passe exactement au sein de la SFR. Parce que une des particularités de cette histoire, c'est que beaucoup d'acteurs du volet Christophe Ruggia sont membres de la SFR. Christophe Ruggia lui-même, mais aussi Céline Sciamma, qui est la compagne d'Adèle Haenel. Et donc, ils ont ensemble, pendant des années, signé un certain nombre de pétitions communes, y compris contre Roman Polanski. Donc il y a quelque chose là qui n'est pas du tout creusé dans la presse pour l'instant.
Il y a des choses qui nous échappent.
Et il y a quelque chose d'interne au sein de la SFR dans cette histoire qui n'apparaît pas. Donc ça renvoie quand même à quelque chose de l'ordre du milieu du cinéma. Samuel Blumenfeld.
Et Marc Wetzmann, vous avez souligné justement qu'Adèle Haenel est au croisement de deux affaires. Cette affaire donc avec ce réalisateur et donc qui donne lieu à cette enquête publiée dans Mediapart, et l'autre affaire où suite à la programmation de J'accuse dans un festival de cinéma, donc le à La Roche-sur-Yon, Adèle Haenel a demandé à ce qu'il y ait un débat à la suite de cette projection. Donc débat qui n'était pas sur le film, donc J'accuse de Roman Polanski, donc J'accuse, qui est un film sur l'affaire Dreyfus. Donc le débat ne portait pas, curieusement, dirais-je, sur la question de l'antisémitisme, qui n'est pas une question anodine dans la France de 2019, me semble-t-il, mais ce débat portait sur Roman Polanski et sur l'affaire dont il est au cœur depuis des décennies désormais.
Et animé par quelqu'un qui a déclaré ne pas vouloir voir le film.
Voilà. Donc c'est quand même, on va dire que c'est une façon de débattre qui est pour le moins problématique. Mais je m'étonne grandement que l'on ait si peu bondi sur une telle initiative. Parce qu'en fait, cette initiative consiste non pas à débattre sur le film, qui est d'ailleurs premièrement remarquable, mais ensuite qui porte sur une question ô combien centrale et cruciale dans notre société, mais elle était là, donc ce débat était là pour faire le procès de l'individu Roman Polanski. Si on met notre doigt là-dedans, eh bien nous allons y laisser notre main. Et ensuite, quand on y aura laissé notre main, on va y laisser tout le reste. Parce que si on veut faire le procès des individus qui ont fait un film, qui ont fait de grands films, on ne va jamais s'en sortir. Je pourrais vous sortir 10 000 exemples comme ça. On ne peut plus, par exemple, plus jamais programmer un film de Fernandel, que ce soit à la télévision ou dans un festival, puisque Fernandel passait régulièrement ses soirées à Commandantour pendant l'occupation. Il s'est vautré, ce grand acteur populaire français s'est vautré dans la collaboration. Que fait-on? À chaque fois qu'on va projeter un film avec Fernandel, qui sont souvent d'ailleurs pas très bons, mais ça c'est un autre débat, mais à chaque fois qu'on va projeter un film avec Fernandel, on va dire non, stop, mesdames, messieurs, arrêtez de regarder ce film et nous allons faire le procès d'individu Fernandel. Et donc pour chaque film, nous allons passer en revue, ou Alfred Hitchcock, conformément au comportement d'Alfred Hitchcock avec ses comédiennes en particulier étaient pour le moins problématiques. Donc on arrête de projeter Vertigo et on se dit non, nous allons parler du traitement de Kim Novak, donc l'actrice principale du film, par Alfred Hitchcock. Mais si on met le doigt là-dedans, mais nous allons en enfer. Et je m'étonne qu'à l'occasion donc de la projection du film de Roman Polanski à La Roche-sur-Yon, personne n'ait bondi devant cette absurdité.
Marilyn Baldeck.
Bah, je crois que ça nous renvoie au débat qui est posé dans les termes suivants. Faut-il distinguer l'homme et l'artiste? Ou plutôt, faut-il distinguer l'homme et l'œuvre? Moi, je pense que cette formulation, elle est intéressante, parce qu'à partir du moment où on a besoin de distinguer, c'est que l'homme est problématique, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de distinguer.
Ou la femme.
Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi pas.
Là, il y a des films de Leni Riefenstahl qui sont problématiques.
Là, en l'occurrence, on parle de Roman Polanski, et donc on parle d'un homme, ça pose pour moi la question des conditions de production, en fait, des biens de consommation en général.
Ou des œuvres d'art.
Et j'allais y venir, des œuvres d'art et des produits culturels. Donc, c'est vrai que dans notre société de 2019, en tout cas, je l'espère, on a de plus en plus tendance à s'interroger sur la provenance et les conditions de fabrication, de conception des produits qui nous entourent. On va de plus en plus souvent se demander si les baskets qu'on achète n'ont pas été fabriquées à l'autre bout du monde dans des conditions extrêmement attentatoires aux droits d'enfants ou de travailleurs, etc. Et peut-être que ça peut être un choix, ça peut présider au choix de les acheter ou de ne pas les acheter. Et c'est une conception en fait de la consommation qu'on trouve légitime. Pourquoi est-ce que ça ne serait plus légitime dès lors qu'il s'agit de produits culturels? Alors en France, c'est vrai, on a le concept d'exception culturelle qui est un beau concept et auquel on est attaché. Mais est-ce que ça doit aussi comporter la question des violences sexuelles? Est-ce qu'on détache complètement en fait la production d'œuvres qui est quand même bien souvent la filmographie de Roman Polanski, elle n'est pas indemne en fait de questions problématiques sur son regard sur les femmes. Donc le fait de le rapprocher à des éléments biographiques de Roman Polanski me semble pas complètement hors de propos. Et ça me semble donc pas complètement hors de propos d'entourer ces projections de discussion, d'échange. C'est ça qui est important, en fait, c'est qu'on en débatte.
Mais comment en débattre? C'est une chose, mais comment en débattre dans quel cadre?
J'observe que Adèle Haenel n'a pas demandé sa censure.
Non, mais précisément.
Je veux dire, on n'est pas dans ce système-là.
Alors, je précise quand même que Adèle Haenel elle-même, personne n'a demandé la censure, mais la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a déclaré qu'elle n'irait pas voir le film d'un homme sur lequel pèsent de telles accusations, car, elle, je la cite, « Je n'irai pas le voir parce que j'ai besoin, quand je vais assister à un spectacle, de partager quelque chose avec celui qui l'a créé. Je ne crois pas partager grand-chose avec un homme sur lequel pèsent de telles accusations. » On entre là quand même dans une logique où, s'il faut aller voir les œuvres des gens qui nous ressemblent, on va vite tous être d'accord avec les...
Excusez-moi,
ça réduit quand même considérablement le champ de la vision.
C'est pas la question de...
C'est pas tout. Partager des choses avec les gens dont on va voir les œuvres. C'est quand même... Madeleine Schiappa a fait une déclaration dans le même sens, sans pour autant appeler au boycott. Elle a dit « Je n'irai pas voir le film de Polanski ». Laurence Rossignol, sénatrice socialiste et ancienne ministre des droits des femmes, a, elle, appelé au boycott, carrément. Donc, il y a quand même, il me semble quand même que on s'engage effectivement dans une voie très problématique, non, Jordan Mintzer?
Mais en France, on a la possibilité d'avoir ce débat, de voir le film et de parler de Polanski. Aux États-Unis, on peut pas avoir ce débat parce que le film sortira pas.
Oui.
Et en fait, parce que Polanski est aujourd'hui, déjà, il est légalement interdit de, il peut retourner aux États-Unis, mais il sera arrêté et mis en prison. Mais ses œuvres, en fait, aujourd'hui sont ce qu'on dit annulés, cancelled, on appelle ça cancel culture, c'est-à-dire que la culture générale aux États-Unis a décidé qu'il ne veut plus d'œuvres de Polanski, ni de Woody Allen d'ailleurs. Donc le dernier film de Polanski et le dernier film de Woody Allen sortiront pas aux États-Unis. Il n'y aura pas de distributeurs qui ils vont pas prendre le risque de sortir le film parce qu'ils risquent justement de boycott, aussi beaucoup de critiques, et ils risquent surtout de perdre l'argent, parce que aux États-Unis c'est un business, c'est Hollywood, et s'ils vont pas investir dans un film, ou ils vont pas avoir d'entrée. Donc moi je trouve ça très bien en France, qu'au moins on peut avoir ces débats, on peut aimer pas aimer le film, aimer pas aimer Polanski, mais on a la possibilité de voir son œuvre. Aux États-Unis, on voit que c'est pas le cas. Ça, je trouve beaucoup plus problématique, en fait.
Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers quelque chose comme ça? C'est la question qu'on peut se poser, Olivier Dufour.
Effectivement, on s'y dirige, mais au très grand galop. Et pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, moi, ce qui m'embarrasse encore une fois, ce sont toutes ces condamnations médiatiques, alors qu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas de condamnation. Ce monsieur est présumé innocent, que cela plaise ou non. Et je suis un peu inquiète de voir à quel point on marche, on piétine, on foule aux pieds les principes de l'état de droit sous prétexte que l'on poursuit un objectif louable. Il est indéniable que la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes est un objectif majeur. Il est indéniable qu'il faut que notre état de droit progresse là-dessus, et il est indéniable qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire, tant au niveau du premier entretien avec la police qu'ensuite au niveau du traitement par la justice de ces dossiers. C'est certain, notamment parce que la justice manque cruellement de moyens et que ça n'est pas les seuls dossiers qu'elle traite mal. Elle en traite énormément mal. Je voudrais aussi relativiser un tout petit peu ce point-là. Mais la question qui se pose à nous de façon cruciale est celle-ci. Est-ce que la fin justifie les moyens? Oui. Est-ce qu'une cause est légitime ou point qu'elle justifie que l'on abandonne les principes de l'état de droit pour obtenir l'amélioration du dit état de droit? Or, la réponse médiatique et politique actuelle, c'est oui. Et moi, cette réponse-là, elle ne me plaît pas du tout. Elle m'inquiète énormément.
Iris Bray a dit d'ailleurs, elle pose la question franco, elle demande « Pourquoi est-ce que la parole d'une victime aurait moins de valeur que la présomption d'innocence ?»
Voilà. Mais là, on est dans une société de la délation. Alors, je veux bien croire que 99,9% des femmes qui s'expriment et désignent leur agresseur ont raison. Mais même si c'est le cas, et je crois que je suis un petit peu bienveillante, mais je préfère être bienveillante à l'égard des victimes que le contraire, même si c'est le cas, en tout état de cause, il n'y a pas de procès. Moi, je suis absolument sidérée. Ce qu'on fait est très inquiétant. Et c'est d'autant plus toxique que ça l'est aussi pour les victimes. Parce qu'au départ, on se dit, bon, je fais avancer la cause. Et je ne veux pas faire de procès d'intention. Donc, madame m'a fait évoluer dans ma réflexion parce que je retiens son argument selon lequel ça n'est pas pour mettre ces hommes devant un tribunal médiatique qu'elles prennent la parole. Franchement, je leur fais ce crédit. Mais le problème, c'est que les médias, eux, n'en ont rien à faire de l'intention de la victime. Et que les médias, eux, se transforment mécaniquement. Je ne dis pas non plus qu'ils souhaitent devenir un tribunal médiatique. Mais enfin, lorsque quelqu'un est jugé est condamné socialement à la mort sociale en l'espace de quelques heures, si juger et condamner, ça n'est pas se tenir comme un tribunal, qu'on me donne une autre définition d'un tribunal. Donc, que ce soit recherché ou non, j'entends que ça ne l'est pas, mais il se trouve que le réalisateur qui est exclu de la société des réalisateurs, dont le nom est traîné dans la boue et qui va avoir tous les problèmes du monde maintenant, je suppose, pour monter des films et trouver des capitaux, il est fini, ce monsieur. Bon, il est fini sur la base d'une enquête journalistique certainement de très grande qualité et d'une interview remarquable d'une jeune femme qui se dit victime de ce monsieur. Mais d'abord, si je mets les choses en balance, enfin, on est sûr de nous sur ce coup-là. Je voudrais que les gens qui nous écoutent se disent « mais mon frère, mon père, mon fils » peut un jour se retrouver dans cette situation-là.
De fait, les versions divergent. Hein. C'est-à-dire que dans son droit de réponse, le réalisateur en question, Christophe Ruggia, dément les accusations de Adèle Haenel. On ne va pas se prononcer dans l'émission sur qui dit vrai, qui dit faux, mais enfin, de toute façon, il y a deux versions.
C'est toujours le cas dans une affaire judiciaire. Voilà. Et puis parce qu'il y a différentes perceptions, il est fort possible que lui n'ait pas eu le sentiment de faire
bien
mal.
Sûr.
Dans ces affaires-là, ça arrive, c'est même assez caractéristique. Et il est fort possible qu'Adèle Haenel ait prodigieusement souffert de ce qui s'est passé et qu'il y ait eu un épouvantable malentendu. Et comme il était l'adulte, de toute façon, ce malentendu n'aurait pas dû se produire. Ça, on est complètement d'accord là-dessus. Mais je préfère quand même une procédure judiciaire qui va durer des mois, qui est terriblement encadré, qui est le résultat de centaines d'années de réflexion et de travail de juriste, non pas pour arriver à un système parfait, c'est humain, donc ça n'est pas parfait. Mais c'est quand même quelque chose d'infiniment sophistiqué, qui est pensé précisément pour ne pas condamner un innocent. Parce qu'en France, on préfère un coupable dehors qu'un innocent en prison. C'est ça, notre état de droit. Alors je trouve que la France a plus ou moins bien résisté au renoncement de ses principes suite au terrorisme. On a tous été conscients qu'il fallait faire attention. Il y a eu des lois quand même assez liberticides, me paraît assez violent, mais il y a eu des lois qui ont renié, nos droits et libertés de façon assez significative. Mais au moins, ce qui était réconfortant, c'est qu'il y avait ce mouvement de attention. Au moins, on était conscient du danger. Ce qui m'inquiète davantage sur les questions MeToo et Balance ton porc, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas conscient du danger parce qu'on est emporté par la légitimité de la cause qu'on défend.
Une Baldec.
Alors sur le fait que du coup ce serait les médias qui joueraient en fait ce tribunal médiatique, je vais pas répondre, il y a trois journalistes autour de la table donc je vous laisse apprécier, mais sur la question de il faudrait que les victimes en fait leur parole serait acceptable en fait dans l'espace public à partir du moment où elles ont porté plainte et à partir du moment où un tribunal a reconnu leur statut de victime. Moi c'est un argument qui me semble en tout cas peu crédible, parce que en fait, on a un certain nombre d'exemples où les femmes, tout en parlant publiquement, ont porté plainte, ont obtenu des condamnations contre des réalisateurs, et pour autant, il y a bien eu un tribunal médiatique, mais contre les victimes. Je pense par exemple à la condamnation pour harcèlement sexuel et à agression sexuelle de Jean-Claude Brissot. Donc moi, j'étais au procès, c'était une quinzaine d'années. C'était pour des agissements qui sont extrêmement violents. Il y a eu vraiment une couverture médiatique qui a été mais accablante pour les victimes. Noémie Cochard, hein, qui est une des plaignantes, a été mais littéralement traînée dans la boue. Enfin, je veux dire, nous, on a une revue de presse à l'association. Quand je retombe dessus, je suis littéralement écœurée, en fait, parce qu'on lit sur le comportement de ces femmes et sur leur démarche. Il y a bien un tribunal médiatique qui a joué contre elles, et jusqu'à présent, en fait. Donc, le fait de dire, en fait, elles sont légitimes, elles sont crédibles, tout ira bien quand elles iront porter plainte, on voit bien, en fait, que c'est pas si simple que ça, en réalité.
C'était pas directement en réponse à vos propos,
mais par ailleurs, avoir un point de vue sur le comportement d'un Polanski ou d'un Ruggia peut se faire indépendamment du point de savoir s'il tombe sous le coup de la loi pénale. En fait, c'est deux débats différents. C'est pour ça que pour moi, il y a d'un côté la justice répressive qui est là pour caractériser une infraction pénale et réunir des éléments de preuve avec un faisceau d'indices qui a été ramené, constitué par l'enquête de Marine Turki s'agissant de Christophe Ruggia. Mais de l'autre côté, moi j'entends Madame Dufour, vous dites c'était l'adulte, il a eu un comportement qui peut avoir été vécu comme étant extrêmement douloureux par la jeune Adèle Haenel. Donc, mais de quoi on parle en fait? Si ce comportement il est douloureux pour une enfant, pour une gamine, c'est bien qu'il n'est pas normal et qu'on peut le juger sans emprunter le registre pénal, les catégories pénales.
C'est quand même un vrai problème, non? Enfin, je sais pas.
Non mais excusez-moi. Enfin, moi je fais du droit du travail.
Oui. À
l'association, notre travail, c'est essentiellement de défendre des salariés qui vont mettre en cause la responsabilité de leurs employeurs dans des conseils de prud'hommes parce que ils n'ont pas mis en place une politique de prévention du harcèlement sexuel. Et que, in fine, c'est elles qui ont été dégagées de l'entreprise pour avoir dénoncé. Le Code du travail impose aux employeurs d'enquêter, donc les employeurs qui ne sont pas des juges, les employeurs qui ne sont pas des magistrats.
Oui, mais c'est différent.
Non, ça n'est pas différent.
C'est différent au sens qu'il n'y a pas d'exposition médiatique immédiate. Là, vous avez quand même...
Je ne répondais pas sur la question de l'exposition médiatique.
Non, mais c'est de ça qu'on parle.
Je termine. C'est-à-dire qu'on exige le droit, la loi exige de personnes qui ne sont pas des magistrats de statuer sur l'existence ou non du harcèlement sexuel
d'accord.
dans les entreprises.
Mais là, ce qu'on est en train de discuter, c'est l'exposition médiatique, le jugement médiatique qui précède, jugement public médiatique qui précède l'enquête judiciaire. C'est de ça qu'on parle, Jordan Minsel.
Justement, là, pourquoi on parle de l'affaire Weinstein, quand vraiment on dit en anglais le tipping point, vraiment le changement de cap, c'est parce que Weinstein, il y a eu énormément d'affaires, il y a eu beaucoup d'accusations pendant 30 ans, mais tout était privé, rien n'était médiatisé, parce que lui, en fait, chaque fois qu'il y a eu une accusation, il y a eu, il y a au moins 80 femmes qui l'ont accusé, mais après, il y a eu au moins une vingtaine de cas où il était obligé, pour leur faire taire, passer un accord avec elle, financière, un accord privé, avec, bien sûr, un accord de non-divulgation. Et donc, c'était sa façon, pendant des années, à contrôler cette situation, à faire en sorte que ça ne sorte pas dans les médias. Et à un moment donné, il y a deux journalistes du New York Times qui ont décidé d'aller un peu plus loin, de dire, en fait, il faut parler de ça. Et c'est ça qui fait les changements. C'est justement la partie parole publique. On va parler en public des choses qui étaient passées en privé avant. Il y a eu aussi des femmes qui sont allées parler avec la police, qui ont essayé de faire justement qu'une enquête soit lancée. Mais ça, c'est vraiment un cas particulier. Harvey Weinstein était tellement puissant qu'il pouvait en fait attaquer ces femmes dans la presse. Il avait aussi des amis politiques à New York. Et chaque fois qu'il y avait une affaire judiciaire possible, il arrivait aussi à arrêter l'affaire.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que justement, il y a une nuance qui est très importante entre ce que vous décrivez, qui est un système de fonctionnement organisé par un homme extrêmement puissant dont on n'arrive pas à se sortir. Et ça, c'est le rôle justement des journalistes, du quatrième pouvoir, de sortir ça. Mais là, on est dans un système dont on n'arrive pas à se sortir, et les médias sont justement là pour faire ça. Avec Adèle Haenel, on est dans un registre un petit peu différent, qui consiste à dire, non pas je n'ai pas réussi à faire sortir l'affaire, je suis allée à la police, elle ne m'a pas entendue, encore une fois, je ne fais pas son procès, je décris des modes de fonctionnement. Elle n'a pas dit je suis allée voir la police, elle ne m'a pas entendue, j'ai envoyé une plainte au procureur, il l'a classée sans suite. Elle a dit la justice est trop lente et elle n'est pas efficace, en conséquence de quoi je préfère aller devant les médias. C'est complètement différent. Là, les médias se substituent à toutes les autres institutions. Donc, on entre dans autre chose. On peut apprécier, encore une fois, moi, je ne porte pas de jugement de valeur. Je dis simplement, je pense qu'on s'engage dans une voie qui va être dangereuse pour la collectivité entière et en particulier pour les victimes. Parce que lorsque les projecteurs s'éteignent au bout de 6 mois, et que la victime est laissée toute seule parce que les médias se sont concentrés sur un autre sujet, je pense qu'il y a aussi un traumatisme, et je pense qu'il n'y a pas la solution judiciaire et il n'y a plus le réconfort de l'attention générale. Donc,
je voudrais qu'on écoute une seconde pour illustrer la confusion engendrée justement par l'exposition médiatique et le rôle trouble que joue la notoriété dans ce genre d'histoire, le rôle contradictoire que joue la notoriété. Je voudrais qu'on écoute d'abord un extrait de l'interview de Adèle Haenel et ensuite un extrait de l'intervention de Nadine Trintignant qui a défendu Polanski sur BFM.
Vous êtes plus connu que celui qui vous a agressé. C'est votre force.
Et c'est la condition même de la parole, là, dans ma situation. Parce qu'il ne s'agit pas de lynchage, en fait. Hein. Mais si on regarde les choses, quand les filles qui portent plainte ou qui dénoncent des faits sont moins connues, on dit « Ah, elle voulait du travail », ou « Elle l'a bien cherché », »,« Elle demande pour se faire mousser », etc. On dénigre leurs paroles. Quelle violence ! Si moi, là, je me dis « Je peux abriter mes sœurs », en fait, qui sont tellement plus précaires. Donc voilà pourquoi je prends la parole et pourquoi il était nécessaire que je sois plus connue que finalement mon agresseur, quoi.
Vous pensez qu'il est victime de son nom en quelque sorte ?
Bien sûr.
C'est une victime pour vous, Roman Polanski ?
Bien sûr. Ce serait pas Roman Polanski, on lui ficherait la paix. Et tous les autres, on leur fiche la paix. Vous pensez bien, monsieur, qu'il y a eu en 44 ans des tas de viols, malheureusement. Des tas. Et on n'en entend jamais parler. Et lui, sans arrêt, on est contre lui. Alors toujours, je crois, la jalousie de quelqu'un qui a réussi alors que c'était un petit Polonais sorti du ghetto.
Voilà, alors on a une illustration, on voit là qu'on n'est pas du tout dans un cas de figure, là, Weinstein, dans le cas d'Adèle Haenel, c'est-à-dire que c'est elle qui est plus connue que son agresseur, et elle joue de sa notoriété, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Marilyn Baldeck, elle joue de sa notoriété pour donner la parole aux victimes, et on a Nadine Trintignant qui dit, mais en fait, Roman Polanski est pourchassé parce qu'il est connu, s'il n'était pas connu, tout le monde lui foutrait la paix. Franchement, dans la démence, mais il y a quand même une confusion engendrée par l'exposition médiatique de toutes ces histoires qui fait que les critères finissent par devenir complètement flous, non, Samuel Blumenfeld ?
Oui, absolument. On est véritablement en pleine confusion. Là, on vient d'écouter les propos de Marine Trintignant, et donc Marine Trintignant avance comme argument, comme justification, que parce que Roman Polanski a été dans le ghetto de Cracovie, donc est une victime de la Shoah, ses parents ont été déportés, sa mère est morte en déportation, lui est passé par de multiples drames, tragédies et sévices. C'est ô combien grave, mais cela ne vous exonère en rien de ce que vous ferez dans votre existence future. Enfin, je veux dire, c'est réellement une justification absurde. Mais comme nous parlons de confusion, eh bien nous avons cette confusion-là, comme nous avons cette confusion entre l'homme et l'œuvre. Et donc on se retrouve dans une situation comme celle que nous avons vécue en début de semaine, où l'une des avant-premières de J'accuse ne peut pas avoir lieu à cause de manifestants ou manifestantes, enfin bon, les deux ensemble, où donc tout d'un coup le citoyen ne peut pas découvrir une œuvre au nom de ce qu'aurait fait ou pas d'ailleurs celui qui en est le maître d'œuvre, le chef d'orchestre. Et donc ces confusions, multiples confusions que je viens d'évoquer, nous empêchent tout simplement de regarder ces situations avec notre intellect et puis en gardant la tête froide, sans se laisser aveugler par les passions.
Est-ce que l'exposition médiatique n'engendrerait pas aussi une confusion sur la notoriété des acteurs ? C'est-à-dire que le fait que quelqu'un prenne la parole pour parler, c'est bien quand elle est connue parce que ça donne plus d'écho, mais en même temps, l'agresseur lui-même, on le prend pour cible parce qu'il est connu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens n'arrivent plus du tout à situer l'origine des discours et à avoir un discours cohérent sur ce qui se passe, parce que le tourbillon médiatique est beaucoup trop puissant.
Si je peux me permettre, je voudrais surtout souligner quelque chose. C'est l'extraordinaire injustice du tribunal médiatique, ou de la justice médiatique, ou appelons ça comme on veut. Parce qu'effectivement, il n'est accessible qu'aux personnes célèbres. Alors pour dédramatiser un peu, en tout cas sortir d'un sujet ultra sensible, je voudrais prendre l'exemple de l'affaire Kerviel. Kerviel, devenu célèbre en raison de l'importance des événements qu'il avait déclenchés, avait table ouverte chez tous les médias. Bon, donc ce qui lui a permis de soutenir pendant des années une procédure
Kerviel,
judiciaire...
C'est l'affaire de la Société Générale.
Pardon, l'affaire, oui. Oui, mais c'est l'affaire Kerviel parce qu'il a été condamné. Donc c'est bien l'affaire Kerviel. Et donc, définitivement, au pénal, c'est indubitable. Et donc, M. Kerviel a eu pendant des années, il a été trois fois invité aux 20h. Trois fois. C'est le seul condamné pénal, à ma connaissance, qui a été trois fois invité aux 20h. Il avait table ouverte dans tous les grands médias. Il les a convoqués au moment d'arriver à la frontière de Vintimille, parce que dès qu'il passait la frontière, il savait qu'il devrait exécuter sa peine de prison et que donc il ne voulait pas l'exécuter. Il a même interpellé le président de la République pour soi-disant obtenir un programme de protection de ses témoins, parce qu'il avait l'air de suggérer qu'en France, les banques, lorsqu'elles avaient un contentieux, envoyait des tueurs tirer une balle dans la tête des témoins, ce que chacun sait, bien entendu. Ça se passe absolument tous les matins dans la rue. Donc, lui, il a eu cette possibilité, ce qui, au final, ne l'a mené nulle part, parce qu'heureusement, la justice reste relativement étanche dans notre pays à la pression médiatique, mais ça ne va pas durer encore très longtemps, cette chose-là. Mais elle reste étanche. Et donc, les gens qui ont accès aux médias sont des gens célèbres qui ont beaucoup de chance. Mais les autres, ça fait partie de ces injustices qui, moi, me font douter de l'utilité de cette justice médiatique. Et je rebondis sur votre confusion. Oui, en plus, il y a une confusion générale, parce que lorsque vous êtes dans un prétoire, la parole est entièrement libre, beaucoup plus encore que dans les médias, parce qu'on est obligé de s'écouter les uns les autres, même si ce que dit l'autre est absolument insupportable à entendre, en particulier dans les affaires sexuelles. Mais cette parole est organisée, elle est rationalisée, parce que la justice, c'est l'émotion sous le contrôle de la raison, tandis que dans les médias, c'est l'émotion qui gouverne la raison. Et chacun peut dire, effectivement, j'étais dans les camps, donc il est hors de question qu'on m'accuse. Mais au final, un juge prend une décision sur la base d'arguments rationnels et de preuves. Alors que ces procès médiatiques, ça va durer, et on le voit d'ailleurs avec Polanski, ça dure depuis 40 ans et ça durera ad vitam aeternam. On n'a pas de décision de justice, excepté pour la première femme, dont je souligne au passage qu'elle dit que ce qui lui a fait beaucoup plus de mal dans cette histoire encore que Polanski, c'est la médiatisation de l'affaire, parce que celle-là, elle ne s'arrête pas. Et le droit crée la prescription, parce que le droit pense qu'à un moment donné, au bout de 10, 15, 20 ans, il faut oublier les choses. Mais les médias n'oublient jamais. Donc voilà, je vois beaucoup personnellement de dangers dans la voie qu'on emprunte.
Cette semaine, on a le résultat de cette dynamique étrange. C'est qu'on a d'un côté Grazia et elle qui mettent en une Adèle Haenel avec des titres « Merci Adèle Haenel, sa force nous bouleverse, Adèle Haenel l'héroïne ». Et parallèlement à ça, on a le film de Polanski en salle, qui fait un carton la même semaine.
Absolument. C'est effectivement un énorme succès commercial, mais on peut imaginer aussi que les spectateurs qui ont été sommés de prendre position, on va dire par l'effervescence médiatique, se sont dit puisque je suis sommé de prendre position, je vais prendre position. Mais fondamentalement, ce que les gens vont voir, c'est le plus grand film. Il y a une dizaine de films réalisés sur l'affaire Dreyfus, mais ils vont en fait découvrir le meilleur film réalisé sur l'affaire Dreyfus, qui après tout, par bien des aspects, une affaire, mais surtout un film qui est d'actualité. Il ne faudrait pas perdre ça de vue.
Juste le producteur, le distributeur du film, ils sont peut-être un peu contents, parce que comme on dit aux États-Unis, there's no such thing as bad publicity, la mauvaise publicité n'existe pas.
Un animal déguisé en matone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde sous mon sang là.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Alexandre Dang et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.